Et voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 18 préavis de grève déposés pour les 3 prochains mois, début de la bataille du rail ce soir. L'enjeu pour les cheminots, faire du débat de la SNCF, le débat de la place du service public en France. Analyse de l'économiste Jean-Marie Pernaud au début de ce journal.
Et à 7h13, la chronique économique de Jean-Marc Chardon, pourquoi le bras de fer est devenu inéluctable entre syndicats et gouvernement à la SNCF.
Alors que les lois de bioéthique seront révisées en fin d'année, il ne reste plus qu'un mois pour participer au débat public dans le cadre des états généraux organisés par le gouvernement. Enjeux et intérêts à suivre avec Daniel Messager.
Et en Russie, une semaine après le tragique incendie de Kemerovo en Sibérie, le gouverneur vient seulement de démissionner, correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin dans un instant.
Faire bouger les lignes dans le milieu de la mode, objectif de 9 mannequins dites grande taille. Elles ont défilé hier en lingerie dans 6 lieux touristiques parisiens. Reportage à suivre de Louis-Valentin Lopez.
Et puis la question du jour dans une quinzaine de minutes, réduire le nombre de parlementaires, à quoi ça sert? On posera la question au constitutionnaliste Dominique Rousseau.
La bataille du rail se prépare donc chez les cheminots. Si le trafic s'annonce quasiment normal ce soir, les perturbations seront très importantes dès demain. 48% de grévistes se sont déclarés, dont 77% chez les conducteurs. 18 préavis de grève déposés pour les 3 prochains mois. Mouvement inédit dans l'histoire de la SNCF. Farida Nouar, quels sont les moyens mis en œuvre à destination des usagers ?
D'abord, il y a l'information. La SNCF s'engage à mettre en ligne sur son appli et sur son site internet un point trafic dès 17h la veille des jours de grève et appelle les voyageurs à ne pas venir en gare sans s'être renseignés avant sur les prévisions. Les clients qui auront réservé des billets TGV ou intercités recevront, s'ils ont laissé leurs coordonnées, des messages ou des mails pour savoir si leur train est annulé ou pas. Sur le terrain maintenant, 3000 gilets rouges supplémentaires seront présents en gare, des Ouibus supplémentaires seront aussi mis en service, des cars également sur le réseau régional. Le covoiturage sera gratuit en Île-de-France, gratuit sur toute la France, sur la plateforme Idévroom, un service de la SNCF. Enfin, la compagnie ferroviaire encourage l'autostop à travers une initiative à laquelle elle s'associe, autostopcitoyen.fr.
Précision signée Farida Nouar. Ce mouvement qui s'annonce d'ampleur est une surprise car l'unité syndicale avait été écornée par les multiples réorganisations de la SNCF et notamment son découpage en plusieurs entités. L'un des défis des syndicats est donc de créer un mouvement concernant pour le public au-delà de la question du statut. Il s'agit donc de défendre le service public au sens large, analyse Jean-Marie Pernaud. Il est chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale.
C'est une image qui s'est quand même sensiblement dégradée depuis une vingtaine d'années. Hein. Depuis 95, c'est une donnée quand même importante. Je dirais même que la perception d'un service public n'est pas gagnée. D'ailleurs, la plupart des syndicats parlent de reconstruire le service public. Et je pense que c'est cela qu'ils ont tout intérêt à faire percevoir à travers leurs propositions. Hein. Comment ceci peut-il être perçu par l'opinion? Il y a une bataille qui va se jouer là. Bon, le gouvernement, à mon sens, ne l'amène pas de manière très adroite. C'est quand même une plaisanterie. Ça fait 20 ans qu'on réforme cette entreprise et ce qui marche pas, on le sait très bien, ça n'a absolument rien à voir avec la question du statut hein, qui est brandi pour évidemment dresser la population qui n'a pas cette protection de l'emploi qu'ont les cheminots, mais tout ça est quand même cousu d'assez gros fil blanc. Donc si les syndicats arrivent à complexifier un peu la perception de la population, et montrer qu'il y a quand même un enjeu du chemin de fer en France, c'est-à-dire de l'ensemble des transports d'ailleurs, ils peuvent passer, ils peuvent gagner. Maintenant, c'est vrai que les usagers, ils vont devoir marcher pendant quelques temps et que, bon, ça va probablement générer des mécontentements légitimes, hein, tout à fait compréhensibles en tout cas.
Jean-Marie Pernaud, économiste, était l'invité du journal de 18h hier soir avec Mathieu Laurent. Entre 400 000 et 700 000 personnes seraient touchées par l'autisme en France, trouble du développement mal diagnostiqué. Ce lundi est une journée de sensibilisation à ce handicap et vendredi, on devrait connaître la nouvelle stratégie du gouvernement dans ce domaine. Beaucoup d'attentes des associations, car les 3 précédents plans n'ont pas permis de répondre aux défis des personnes concernées, enfants comme adultes. Alors que la loi de bioéthique sera révisée en fin d'année, les états généraux de la bioéthique se poursuivent partout en France. Plus qu'un mois pour participer aux débats organisés par le Comité consultatif national d'éthique. Ces débats constituent une phase préalable donc à la révision de la législation. Ils sont organisés par les espaces éthiques régionaux ou sur le web, Daniel Messager.
Déjà des milliers de personnes se sont exprimées lors de la 60aine de débats citoyens mis en place dans toute la France. La révision de la loi de bioéthique n'intervient que tous les 7 ans. En termes de reproduction, génétique, intelligence artificielle, la science évolue très vite. Alors savoir de quoi on parle et ce qu'on souhaite pour le futur, c'est important, comme il y a quelques jours où plus d'une centaine de personnes assistaient à ce débat organisé à Rouen sur le thème de la procréation médicalement assistée qui interroge encore beaucoup.
On n'a aucun retour pour savoir s'il est bien ou mal de procréer de cette façon-là. Avant d'étendre cette procréation à davantage de couples, voilà, quelle nouvelle société on est en train de créer.
Autre question très relayée, ce jour-là, faut-il lever l'anonymat sur le don de sperme ou d'ovocytes ?
Quand on parle de le souhait légitime des gens de connaître leurs origines, évidemment, ça va prendre une toute autre ampleur. Si les personnes sont privées de père, la question des origines, notamment des origines paternelles, va se poser avec encore plus de force.
Les échanges citoyens viendront nourrir un rapport de synthèse du comité d'éthique en juin, qui sera suivi cet été d'un avis sur les priorités qui pourraient figurer dans la loi. Mais la future loi de bioéthique ne sera sans doute pas discutée au Parlement avant le début 2019.
Compte rendu signé Daniel Messager.
7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. La Chine avait promis une riposte aux taxes sur l'acier et l'aluminium émises récemment par les États-Unis. C'est chose faite cette nuit même.
Et Pékin annonce des droits de douane supplémentaires sur 128 produits américains, du porc surgelé à certains fruits, une augmentation de l'ordre de 25%. Toujours concernant la Chine, l'aventure se termine aussi pour la station spatiale Tiangong 1, premier laboratoire spatial mis en orbite par Pékin. Il s'est désintégré ce matin lors de sa rentrée dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud. La structure de la taille d'un autobus avait été lancée en 2011. Objectif, permettre à la Chine d'installer à terme une station permanente en orbite. En Russie, le gouverneur de la région de Kemerovo en Sibérie a démissionné une semaine après l'incendie d'un centre commercial qui a fait au moins 64 morts, dont 41 enfants. Vladimir Poutine avait dénoncé une négligence criminelle. Il a accepté cette démission. Les habitants de la ville continuent de leur côté à dénoncer la corruption des gouvernants alors que l'enquête progresse. Jean-Didier Revoin.
C'est dans une vidéo de 3 minutes tournée dans son bureau que le gouverneur de la région de Kemerovo a annoncé qu'il démissionnait. C'est la seule décision juste, a déclaré Aman Tuleyev, 73 ans, ajoutant qu'il était moralement impossible de poursuivre ses fonctions avec le poids d'un tel fardeau. Aman Tuleyev dirigeait cette région de Sibérie depuis 1997 et avait été fortement critiqué pour ne pas s'être rendu sur les lieux du drame, ni même avoir rencontré les proches des victimes de l'incendie du supermarché qui a fait plus de 64 morts, alors que Vladimir Poutine lui-même avait parcouru les 3600 kilomètres séparant Kemerovo de Moscou. Le président russe avait estimé que ce drame était dû à des négligences criminelles, dénonçant lui-même les méfaits de la corruption pointés du doigt par des manifestants en colère, tout comme le laxisme dans la mise en œuvre des mesures anti-incendie. Des éléments que l'enquête a confirmés, entraînant plusieurs arrestations. Tanzilia Komkova, en charge de la surveillance de la construction des bâtiments, a été arrêtée pour ne pas avoir empêché l'exploitation du supermarché, construit illégalement. Yulia Bogdanova, directrice de la société propriétaire du bâtiment, se retrouve derrière les barreaux, car elle n'aurait pris aucune mesure pour pallier les défauts du système anti-incendie que ses subordonnés lui avaient signalé. En début de semaine dernière, 5 personnes, des responsables du centre commercial et un membre de la sécurité avaient été arrêtés, mais ce n'est certainement qu'un début, car l'enquête pourrait durer plusieurs mois.
Correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin. En Syrie, la chute est imminente dans la Ghouta orientale. La ville de Douma, ultime enclave rebelle contrôlée par des combattants islamiques, devrait prochainement être évacuée, annonce de Moscou et de la télévision d'État syrienne. La France exprime son inquiétude après les violences de ce week-end le long de la frontière entre Gaza et Israël, violences au cours desquelles 16 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Paris rappelle le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Par ailleurs, Israël continue de rejeter toute enquête indépendante sur la mort des manifestants. En Amérique centrale, au Costa Rica, c'est le candidat de centre-gauche qui a remporté l'élection présidentielle, Carlos Alvarado Quesada, 38 ans, ancien ministre et écrivain. Il était le candidat du parti au pouvoir. L'élection s'est jouée sur un choix de société, l'ouverture à plus de droits pour les homosexuels. Elles ont protesté hier à Paris contre le diktat de la minceur. Des mannequins dites grande taille ont surpris les touristes à Paris, donc dans 6 lieux touristiques de Montmartre au Trocadéro. Défilé en lingerie pour demander notamment une meilleure application de la loi mannequin entrée en vigueur l'an passé. Les agences continuent à recruter des silhouettes minuscules alors que la française fait en moyenne une taille 42. Inspiré d'une initiative new-yorkaise, ce mouvement essaime dans le monde. Louis-Valentin Lopez.
Prendre la pose en lingerie devant la tour Eiffel, 9 mannequins de la taille 42 à 46.
Il faut que les employeurs changent d'idée, prennent des femmes avec des formes.
La plupart des annonces, ce sont des annonces pour trouver des mannequins taille 34-36.
Une banderole déployée, The All Sizes Catwalk, le défilé toute taille.
Je les trouve magnifiques, elles sont superbes.
On n'est pas toutes filiformes dans la vie.
Une très bonne idée. La femme, dans le monde aujourd'hui, doit être trop magre.
Raffaella vient d'Italie, où des agences interdisent de défiler si l'indice de masse corporelle est inférieur à 18,5. Mais la pionnière en Europe, c'est Madrid. Dès 2006, fini les mannequins trop maigres sur les podiums du Pasarela Cibeles, grande messe de la mode espagnole. Et en France, eh bien, les textes de la loi santé s'appliquent depuis mai 2017. Olivier Véran, l'un des rapporteurs.
Un amendement qui condamne les boîtes de mode lorsqu'elles fait défiler, lorsqu'elles recrutent des mannequins objectivement trop maigres. J'avais constaté à l'époque que le poids moyen des mannequins avait baissé d'à peu près 10 kilos en 15 ans.
Des industriels de la mode ont donc mis en place des chartes de bonnes pratiques sous peine d'une amende de 75 000 euros. Et Olivier Véran remarque aussi un revirement de l'opinion publique.
Je suis submergé de messages à chaque Fashion Week pour me signaler telle ou telle photo ou tel ou tel défilé. La ringardisation de cette tendance au recours aux mannequins trop maigres est quelque chose qui permettra d'assainir ce milieu.
Sans compter la mention photo retouchée, désormais obligatoire, sur toutes les publicités qui ont recours à ce procédé.
Reportage signé Louis-Valentin Lopez.